Bienvenue dans le quatrième épisode de ce podcast « Neurosciences, repousser les limites ou les apprivoiser ». Dans les épisodes précédents, Laure Taboui, qui est neuroscientifique, a expliqué ce que sont les neurosciences et leur histoire, leurs applications concrètes, mais aussi les enjeux et les questions éthiques qu'elles soulèvent. Car on l'a vu, à l'heure où l'on parle de transhumanisme ou d'homme augmenté, les neurosciences nous mettent face à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'homme ? Cette question est donc fondamentale et infiniment complexe, mais j'ai tout de même demandé à un théologien d'essayer d'y apporter quelques éléments de réponse pour conclure cette série de podcasts. Jacques-Benoît Raucher est dominicain, il enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon.
Moi, je répondrai à cette question « qu'est-ce que l'homme ?», qui est une question évidemment vaste, en m'appuyant peut-être un peu sur ma propre tradition dominicaine et notamment sur celle de saint Thomas d'Aquin, qui en gros décrit l'homme comme étant pris en tenaille entre deux règnes. Il est un animal, donc il est proche des réactions qui peuvent exister en animal, mais en même temps il est doué d'une intelligence qui le rapproche, d'après saint Thomas, du règne angélique. Et donc Thomas le décrit, je trouve que c'est assez parlant, comme un peu pris en tenaille entre le règne animal et le règne angélique. Et en fait, se situer correctement dans son humanité, c'est se situer ni jamais du côté de l'animal, ni non plus en se rêvant comme un ange. Et j'aime bien cette tension qui, à mon avis, caractérise bien qu'est-ce que l'homme, justement.
Alors, une des définitions que l'on peut donner de l'homme, si on s'appuie sur la tradition, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Que l'homme soit créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il existe en lui cette marque de Dieu qui l'invite justement à travailler. C'est une des dimensions de cette image de Dieu, c'est de travailler son environnement. Quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il les invite à travailler ce jardin pour l'améliorer. Le travail n'est pas une condamnation qui nous viendrait de la chute. Le travail est quelque chose qui nous fait justement image et ressemblance de Dieu, qui nous permet de parfaire par notre effort, quelque part, l'œuvre de la création de Dieu. Et ça, c'est une très belle vocation, mais on est toujours à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas Dieu nous-mêmes. Et là est la tension, je pense, qui se situe toujours, et on le voit dès les premières pages de la Bible. Essayer d'être à la hauteur de cette vocation qui est d'être à l'image de Dieu, sans nous rêver d'être Dieu nous-mêmes, en nous plaçant justement dans cette bonne dépendance qui est la dépendance à Dieu.
Qu'est-ce que c'est cette tentation dont vous parlez ?
Cette tentation, c'est de se dire, au fond, je peux être mon propre auteur, je peux être l'auteur, finalement, de ma propre vie, et je peux me passer, à un moment donné, de Dieu. Et je pense que cette tentation, elle est très importante, c'est-à-dire dire mes compétences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient philosophiques, à un moment donné, vont me faire oublier que je dépends fondamentalement d'un autre qui est Dieu. Et si j'oublie ça, je risque d'oublier aussi ma dépendance, encore une fois, à l'égard des autres êtres humains. Et du coup, je vais faire de ma capacité technique et de mon génie quelque chose qui va, au fond, me servir à servir les autres, en fait.
Alors, cette humanité, elle est aussi caractérisée par des fragilités, des faiblesses, une vulnérabilité, et puis la finitude, elle est mortelle. Et elle en a conscience. Est-ce que c'est ce qui fait aussi sa particularité et qui est propre à l'humain ?
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier ou à vouloir nier quand on est un être humain. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à se dépasser qui est extraordinaire chez l'homme et qui lui permet de conquérir par sa pensée, par sa raison, beaucoup de choses qui lui permettent de se détacher justement de la condition animale un petit peu la plus basique. Mais en même temps, il y a ce risque aussi de dire à un moment donné, je veux être sans limite. Donc, pour le dire vite, repousser ses limites, c'est toujours quelque chose de bon. Se rêver sans limite, c'est quelque chose de dangereux pour l'homme. On est par notre nature même limité, par notre corps d'abord. C'est-à-dire notre corps, il évolue, il vieillit, parfois il est malade. On est limité aussi dans notre capacité à connaître. C'est-à-dire on ne comprend pas tout de suite. Il nous faut du temps parfois pour comprendre quelque chose. Il nous faut nous appuyer sur les autres parce que d'autres nous ont transmis des éléments que eux ont explorés. Il faut nous appuyer sur nos sens qui parfois peuvent nous tromper, mais qui en même temps sont extrêmement importants pour pouvoir connaître. On est toujours un petit peu soumis, je pense, à cette finitude qui nous caractérise. Oui.
Mais pourquoi consentir à dépendre d'un autre ? Pourquoi ne pas chercher une autonomie, une indépendance qui fasse qu'on se suffit à soi-même en quelque sorte ?
Parce que je pense que dépendre d'un autre, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans notre nature. Donc, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu tautologique quelque part, mais je crois qu'il y a quelque chose de profondément inscrit en nous, de voir. Alors, pardon, je vais reciter saint Thomas, hein, mais Thomas d'Aquin, je trouve, a cette belle manière de dire que l'homme, il est à la fois un animal rationnel, donc un peu au-dessus de l'ensemble des créatures par la puissance quelque part de son intelligence, mais c'est en même temps un animal dépendant. Et il le prend de façon très très concrète en disant, si vous mettez en substance un bébé ours et un bébé homme dans la nature, l'homme, il est naturellement doté d'assez peu de choses. Il n'a pas de pelage, il n'a pas de griffes, il n'a pas de dents qui lui permettent de se défendre. Mais ce qu'il a, c'est non seulement son intelligence, mais sa capacité de vivre avec d'autres. Et c'est le fait qu'il accepte, au fond, de partager ses compétences avec d'autres et de les répartir avec le groupe qui fait qu'il est extrêmement fort. Donc notre force comme être humain, quelque part, elle vient de l'acceptation de notre dépendance qu'on peut avoir des autres membres du groupe. C'est dans un sens une fragilité, mais une fragilité qui fait partie de notre condition humaine. Et je dirais l'acceptation de cette fragilité, elle fait notre grandeur. J'ai été très étonné, par exemple, en notant que des ethnologues, par exemple, on avait noté qu'on avait un jour posé à un ethnologue la question de quand est-ce qu'il date l'apparition de l'humanité auprès des premiers hominidés un peu primitifs. Et il avait eu cette réponse étonnante quand on a vu les premières fractures réparées sur des squelettes. Et on se disait pourquoi? Mais il a dit tout simplement parce que ça montre, pour qu'une fracture se répare, il faut du temps. Et ça montre que le groupe était suffisamment organisé pour protéger la faiblesse d'un de ses membres, pour prendre en compte la faiblesse d'un de ses membres qui avait une fracture, et faire en sorte que cette fracture prenne du temps pour se réparer. Donc il disait, ce qui caractérise l'humanité, c'est justement cette capacité à se dire, je ne me débarrasse pas de l'animal le plus faible du groupe, mais je le prends en compte, je le prends en considération pour faire en sorte que sa faiblesse puisse être réparée et dans un sens dépassée.
Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que les neurosciences, frère Bernard Rocher, finalement sont dans la continuité de ce mouvement qui consiste à prendre soin de l'autre?
Ben, je l'espère en tout cas. Mais pour qu'elle le soit, je pense qu'il faut qu'elle tienne cette tension, c'est-à-dire d'être toujours sur la brèche pour avancer toujours plus loin et faire en sorte qu'on puisse soigner le mieux possible, qu'on puisse faire en sorte qu'on dépasse toujours les limites qui sont imparties à notre humanité, et en même temps qu'on n'oublie pas non plus cette dépendance et cette faiblesse qui nous caractérisent. Et je pense que les deux sont importants, c'est-à-dire d'aller toujours plus loin dans la possibilité de se dépasser. Mais en même temps, en se disant qu'on ne sera jamais tout puissant et que pour tout ce qu'on n'a pas encore pu dépasser, il faut aussi qu'on puisse penser comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on accepte tout ce qui est la faiblesse et la dépendance des personnes, par exemple, qui n'ont pas pu encore bénéficier des progrès technologiques ou de tous les champs qui n'ont pas encore été traités par ces neurosciences.
Mais consentir à la fragilité et à la maladie, par exemple, pour certains, ça peut apparaître comme un scandale. Est-ce qu'il n'est pas naturel de vouloir repousser les limites sans cesse?
Tout à fait, mais je pense que c'est très utile de se dire, et c'est une énergie qui, moi comme théologien, je dirais vient de Dieu, hein, cette énergie qui nous dit on a envie de repousser les limites. Mais il y a aussi des limites sur lesquelles on bute au quotidien et des limites sur lesquelles on sait qu'aujourd'hui on bute. Alors celles-ci, il ne faut pas non plus qu'on se dise on va faire comme si elles ne devaient pas exister. Je pense par exemple à des limites qui sont liées à la maladie, qui sont liées à la connaissance, qui sont liées à certains types de handicap, hein, qu'aujourd'hui on ne dépasse pas. Hein, par exemple, une personne qui naît avec un handicap, un handicap moteur, dont on n'a pas de solution forcément pour améliorer son quotidien, ça va être quelque chose qui est évidemment douloureux à vivre pour cette personne et son entourage. Mais en même temps, c'est une ouverture aussi sur un autre type, on pourrait dire, de relation qui nous renvoie chacun à des faiblesses qu'on peut connaître dans notre humanité. Et on a quand même des témoignages forts de personnes qui vivent au contact de personnes handicapées ou de personnes handicapées elles-mêmes, hein, qui nous disent, au fond, on est un peu un témoin des faiblesses que vous connaissez, même si elles sont moins visibles, même si elles sont moins marquées, hein, dans votre quotidien. Donc je pense qu'il y a cette bonne tension à garder, essayer de repousser toujours le plus possible les limites, mais savoir aussi les accueillir quand on ne peut pas les repousser. Parce que sinon, il y a quelque chose qui serait dangereux de se dire, on verrait dans la personne qui est malade, par exemple, simplement un échec de la science. Une personne malade n'est pas juste un échec de la science, c'est une personne aussi qui est là pour nous dire, il y a quelque chose de différent qu'on peut vivre avec tout un chacun qui se présente à nous. Une dignité qui fait que tout être humain, qu'il soit bien portant, malade, qu'il soit très intelligent ou qu'il ait une intelligence qui soit développée autrement, c'est quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, quel qu'il soit. C'est parfois un mystère de regarder cette ressemblance de Dieu chez des personnes qui apparemment nous semblent marquées, hein, par toute une série de limites. Et je crois encore une fois que c'est quelque chose qui nous montre que cette dignité, elle n'est pas toujours non plus selon uniquement nos critères humains.
Vous parliez tout à l'heure du risque de se prendre pour Dieu. Est-ce que...
Alors, les technologies se développent à une vitesse folle. Certaines choses dont l'homme est capable aujourd'hui étaient, il y a encore quelques décennies, purement de la science-fiction. À quelle réflexion est-ce qu'elle doit conduire?
Sur ces nouvelles technologies qui se développent à une vitesse effectivement vertigineuse, je pense qu'il faut avoir une attention permanente. C'est, à mon sens, le bon terme. Parce qu'il ne faudrait pas tomber dans cette espèce de crainte qu'on peut voir se manifester aujourd'hui pour la technologie, pour, en se disant trop vite, on vivait plus tranquille avant. Hein, ce n'est pas vrai. Encore une fois, il y a des progrès extraordinaires qui sont faits, qui permettent de changer profondément la vie des gens. Et ça, il faut s'en réjouir d'abord. Mais ensuite, c'est vrai qu'il faut avoir une attention, notamment pour ne pas tomber dans une espèce de fascination pour son propre pouvoir quelque part et pour le pouvoir que la technologie nous donnerait. Au fond, on ne doit pas rougir d'être un être humain qui reste et qui restera toujours limité. Saint Augustin avait acquis beaucoup de connaissances avant sa conversion, il avait même lu les évangiles, et il disait pourtant, c'est pas ça qui a fait que je me suis converti. Il a dit, il a une très belle formule en disant, je connaissais, je savais, mais à cette époque, je ne pleurais pas. C'est-à-dire, il disait, c'est pas parce que j'avais accumulé des connaissances que j'étais rentré dans cette sagesse qui me caractérise. Je suis rentré dans cette sagesse à partir du moment où j'ai eu non seulement ces connaissances, mais en même temps la capacité d'assumer ma faiblesse qui me faisait pleurer. Et je trouve que c'est une très belle expression de la part d'Augustin, ça. Parce qu'on sait que c'est un grand savant, mais un grand savant qui ose dire, je pleure parce que je bute aussi sur mes limites. Et ça, je pense que c'est ce qui distingue finalement un pur connaissant et le vrai sage. Et je pense qu'on est tous appelés à devenir des sages, c'est-à-dire des personnes qui vont le plus loin possible dans leur maîtrise des connaissances et des techniques, mais qui savent aussi pleurer sur toutes les limites sur lesquelles elles-mêmes et l'humanité butent. Et ça, je pense que ce deuxième aspect, on risque de l'oublier aujourd'hui en se disant nos limites et nos incapacités sont un scandale. Non, c'est pas un scandale. Ça fait aussi partie de qui on est.
Alors dans les évangiles, on voit Jésus qui guérit. Il permet à des paralytiques de se lever et de marcher. Il redonne la vue à des aveugles, l'ouïe à des sourds. Est-ce qu'on pourrait considérer que les neurosciences ont pris le relais des miracles de Jésus qui nous sont relatés dans les Écritures?
Oui, le génie de l'homme est en un sens une manifestation des miracles que Dieu permet de faire. Et je pense qu'il ne faudrait pas trop voir le miracle uniquement comme une intervention quasi directe de Dieu. Dieu aime bien utiliser des médiations. Et parfois, oui, le scientifique est une médiation, qu'il le sache ou non, de Dieu qui accomplit des miracles. Donc les progrès de la science, en un sens, sont un petit peu des miracles que Dieu permet à l'homme de faire pour pouvoir repousser au loin les maladies que Jésus guérit et puis qui parfois sont guéries par Dieu directement encore aujourd'hui. En même temps, dans les évangiles, Jésus ne guérit pas tout le monde. Et il y a quelque chose de scandaleux si on se dit ça, hein. Le Fils de Dieu vient sur terre et il guérit quelques personnes dans un petit coin reculé de l'Empire romain. Mais je crois qu'il faut tenir cette tension. C'est que Jésus, quand il vient pour annoncer le royaume. Mais le royaume, il est pleinement établi quand Jésus va venir dans la gloire. Et on est encore dans cette tension aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des petites manifestations du royaume, ou des manifestations du royaume plus conséquentes, qui sont peut-être les guérisons, les grands moments de grâce qu'on peut vivre, et peut-être les progrès aussi que l'homme peut faire par le génie que Dieu lui a donné de développer. Mais en même temps, toutes les maladies, toutes les souffrances ne seront véritablement guéries que quand le Christ reviendra en gloire. Et je crois que ça, c'est la condition du chrétien, hein, d'être dans le déjà là et dans le pas encore là. Et je pense que ce qui n'est pas encore accompli, de ces guérisons, c'est ce qui peut nous faire crier que ton règne vienne. C'est d'ailleurs la devise des Assomptionnistes, que ton règne vienne. Donc c'est une belle devise. C'est quelque chose qui nous fait espérer le royaume aussi quand on est confronté au fait que notre génie humain il ne peut pas régler tous les problèmes encore. Et c'est ce qui nous fait nous en remettre au seul sauveur qu'est le Christ.
Pour terminer cet entretien, frère Bernard Rocher, j'aimerais savoir comment vous entendez, vous, les mots de transhumanisme et d'homme augmenté.
L'homme augmenté, c'est pareil, je pense qu'on peut l'entendre en tension. Il y a quelque chose de bon hein, de se dire on augmente notre humanité par notre propre génie. On dit souvent que la Bible commence dans un jardin et termine dans une ville, comme pour dire que Dieu ne nous fait pas revenir à la case départ. Ce à quoi il faudrait faire attention, c'est que l'homme augmenté ne devienne pas finalement une espèce de caricature de ce qui fait notre humanité, encore une fois. Moi, ce qui me fait peur parfois avec cette idée d'homme augmenté, c'est que ce soit pas simplement une personne augmentée, mais que ce soit un individu augmenté, qui finisse par se dire qu'il n'a pas besoin des autres. Et ça, ce serait pour moi une vraie négation de ce qui fait l'humanité.
C'est la fin de cette série de podcasts consacrée aux neurosciences. Merci à Laure Taboui d'avoir accepté d'y participer, elle qui est neuroscientifique et qui enseigne l'éthique à l'Institut catholique de Paris. Merci également à Jacques-Benoît Raucher, dominicain, qui enseigne la théologie morale à l'Université catholique de Lyon. Cette série de podcasts a été réalisée par Véronique Alzieux pour l'Université européenne Assomptionniste.